at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Avant de commencer, petit point promo en vous rappelant que notre campagne de financement est lancée. Si vous le souhaitez et vous le pouvez également, vous pouvez nous soutenir financièrement. Vous trouverez le lien vers notre Ko-fi dans la description de l'émission ou sur nos réseaux sociaux. En nous aidant mensuellement, vous aurez accès aux émissions en avant-première, ainsi qu'aux versions longues et petit à petit à d'autres contenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Anna, Calypso, Léa et Tizona. Bonjour à toutes, comment allez-vous ?
Eh ben ça va super bien.
Ça va.
Ça va très bien, salut.
Et ce mois-ci, nous recevons Gomaïssa. Salut Gomaïssa.
Salut.
Ça va ?
Ça va nickel, content d'être invité dans cette émission, c'est trop chouette.
Bah, on est aussi content de te recevoir. Tu fais de la médiation numérique autour du jeu vidéo et tu as lancé Foulido, un outil de curation qui rapproche les écologies et les jeux vidéo. On en parle tout à l'heure. Et donc, bah, merci d'être parmi nous. Pour commencer l'émission, c'est Tizona qui nous parle du speedrun et sa célébration du jeu alternatif.
Alors récemment s'est tenue la 5e édition de Speedon, un événement qui a réuni pendant 4 jours des speedrunneuses, animatrices, commentatrices, artistes célébrant le speedrun. Devenu un running gag au fil de l'événement, on entendait très fréquemment répéter avec humour que l'événement se voulait complètement apolitique. Et oui, pas de politique dans mon jeu vidéo, encore moins lors d'un événement caritatif. Le speedrun, c'est un sujet fascinant à étudier sur bien des aspects, car comme beaucoup de sujets liés au jeu vidéo, si ce n'est quasi tous, il est un miroir social, économique et par extension, et en toute évidence, politique. Je souhaitais aujourd'hui aborder certaines polarités de la pratique, en partant de la célébration d'une pratique a priori disruptive à la réglementation parfois stricte de cette dernière. Le speedrun est souvent perçu d'un œil assez réducteur comme une manière de jouer dont l'objectif va être de casser en petits morceaux un jeu pour le bien de la vitesse, voire du spectacle, mais ce n'est pas tout. Cette perception elle est principalement due au biais qui place le speedrun comme quelque chose de majoritairement performatif grâce aux événements qui le mettent en lumière depuis des années, que ce soit en France depuis l'émission Speed Game ou Speedon, ou avec des événements plus rayonnants à l'international comme l'AJDQ, donc les Awesome Games Done Quick aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le speedrun, c'est une pratique qui est aussi disruptive qu'elle peut être réglementée. En effet, lorsqu'on cherche à s'y intéresser, on va voir généralement des vidéos sur YouTube, on va consulter des leaderboards. Ces mêmes leaderboards imposent un certain nombre de règles à respecter afin qu'une run y soit acceptée. Ces dernières permettent de poser un cadre qui cherche à placer d'égal à égal chaque participation. Mais est-ce vraiment d'égal à égal ? Assez vite apparaissent un certain nombre de problématiques économiques et sociales dans ces fonctionnements. En premier lieu, la pratique du speedrun peut être coûteuse. En effet, certains jeux n'accepteront que des versions originales sur console, parfois rétro, souvent très chères. Un grand nombre de règles peuvent contrevenir à certains publics. Tous les contrôleurs ne sont pas forcément acceptés. Les pauses sont souvent interdites, et dans la pratique, certaines manipulations extrêmement complexes mais nécessaires pour accomplir certaines catégories peuvent être impossibles à réaliser techniquement pour des personnes qui n'ont pas les capacités cognitives, motrices, sensorielles pour cela. En bref, ces règles peuvent être rédhibitoires pour beaucoup de personnes et tendent à donner une image vectrice d'inaccessibilité, ce qui est assez paradoxal dans une pratique où la carte blanche est pourtant laissée pour exploiter des manipulations qui feraient grincer des dents les gamers avec un grand G, comme l'utilisation massive des modes faciles, des outils d'assistance fournis par le jeu et d'autres mécaniques. Vu sous ce spectre, cette pratique alternative peut sembler imposer beaucoup de limites et s'avérer peu accueillante pour certaines typologies de joueuses. Cependant, est-ce que le speedrun se résume à des règles alors que par nature il les défie ? Est-il nécessaire d'aborder la pratique comme une compétition constante plaçant les autres comme des adversaires et non comme de potentiels alliés ? Vous l'aurez compris, tout ce que je viens de dénoncer n'est que la partie la plus visible de l'iceberg. Le speedrun, ce n'est pas qu'une pratique qui a pour objectif le divertissement et les marathons, ni même les leaderboards. Ça peut, et je dirais même que ça doit, être une pratique premièrement personnelle. Ce ne sont pas que des compétitions entre joueuses, ce sont des guides aussi de dizaines de pages rédigées par des passionnés et partagées à tous. Ce sont des catégories qui s'ajoutent au fil du temps. Ce sont des communautés qui interagissent entre elles sur les forums, sur des serveurs Discord qui leur sont dédiés. Par ailleurs, rien n'oblige à posséder une copie légale d'un jeu pour faire du speedrun à titre personnel. Rien n'empêche d'utiliser des quick saves pour s'entraîner. Et surtout, rien n'oblige à chercher un world record, ni même à poster ses temps. Malgré tout, même si le speedrun peut s'accomplir de bien des manières, en s'affranchissant des règles qui lui sont parfois imposées, il est compréhensible que des personnes aient envie d'accéder à une valorisation de leur performance dans des conditions qui ne leur sont pourtant pas toujours favorables. Que ce soit par les diverses réglementations suscitées ou encore par appréhension sociale, notamment dans le cas de personnes marginalisées. Heureusement, au fil des années, on a quand même assisté à une diversification de la scène du speedrun. Des événements accueillent de plus en plus de personnes marginalisées, même si ce n'est pas encore toujours parfait. Des communautés et des événements valorisant la diversité se créent. Par exemple, nous avons en France Fast and Fabulous, qui est une communauté en non-mixité choisie. Aux États-Unis, il y a Frame Fatal, qui est un petit peu sous ce schéma. Ou encore Back to Black, qui est un événement caritatif organisé par le collectif Black in a Flash, réunissant des speedrunneuses noires. Vous l'aurez compris, quand je parlais de jeux alternatifs, je ne parlais finalement pas que de manière peu conventionnelle de jouer à un jeu, mais surtout aussi de nuances qui existent au sein même du speedrun en tant que culture. Pour un domaine où l'objectif principal c'est d'aller vite, il faudra peut-être encore du temps pour laisser la pratique se diversifier davantage, accueillir plus de monde, tout en continuant à la célébrer bien évidemment. Pour approfondir le sujet, je terminerai en recommandant les travaux de recherche de Sacha Bernard, qui parle beaucoup de la pratique du speedrun dans ses multiples dimensions historiques, culturelles et sociales.
Anna, tu veux réagir à la chronique de Tizona ?
Merci beaucoup, du coup, Tizona, pour ta chronique sur le speedrun, qui est vraiment très intéressante et qui va faire un pont aussi vers la mienne, où je vous propose une redéfinition du speedrun. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est une pratique, enfin plutôt un détournement du jeu vidéo qui est vraiment fascinant et où on a en fait toute une communauté derrière qui est particulièrement engagée. Donc je ne saurais que vous recommander chaudement les travaux de Sacha Bernard sur la question, qui en plus a participé du coup récemment, donc il y a quelques semaines, à Interglitch, où il a mené justement une étude en fait sur les publics des événements autour du speedrun, et c'est vraiment très très intéressant. Mais je ne vous en dis pas plus, puisqu'on va en parler encore.
Merci Anna, merci Tizona. Tout de suite, c'est Calypso qui nous parle de la représentation du care dans les jeux et à quoi ça sert finalement.
Merci beaucoup à toi. Alors récemment, j'ai traversé une période où j'ai eu besoin de reposer un peu mon cerveau. Mais mettre en pause cette machine infernale, bah, c'est loin d'être une mince affaire. Alors là, je me suis rappelé que j'avais pas encore joué à la dernière mise à jour d'Hades 2. Et Lazare me l'a rappelé aussi, enfin en tout cas on en a discuté. Alors du coup, bah, pour reposer mon cerveau, c'était pratique pendant un temps. J'ai bien aimé être bien concentré pour esquiver les monstres qui étaient toujours plus nombreux et toujours plus compliqués à battre. Et d'ailleurs, je suis toujours pas arrivé à la fin, mais bravo à toi Lazare d'y être parvenu. Mais en tout cas, c'est pas forcément le jeu qui était le plus apaisant. Hein. Qui ne finirait pas par péter une pile quand le boss final parvient quand même à nous achever alors qu'il lui restait un tout petit quart? Allez hop, on meurt et on réapparaît dans notre petit cocon, bien à l'écart des combats, où l'on retient sa respiration, au risque de prendre trop de dégâts par les monstres. Donc on peut prendre vraiment un bol d'air frais, et à chaque fois, même si on revient un peu bredouille sans avoir réussi à botter les fesses de Chronos, par exemple, on est quand même récompensé de notre dur labeur, et on peut décorer notre petit havre de paix, en apprendre davantage sur nos dieux et déesses favoris, en discutant avec eux, parfois au détour d'un bain, d'un verre. Et tout cela, ça m'a évoqué une notion sur laquelle un ami à moi de master a travaillé, donc il s'agit du care au sein des jeux vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais simplement envie de vous en parler, de cette notion que vous avez sûrement rencontrée, sans forcément y mettre un nom. Et du coup, on se doute qu'elle va s'exprimer différemment selon les jeux. Et par exemple, pour le cas d'Hades, ça va prendre la forme d'interactions qu'on peut avoir avec certains PNJ quand on va leur offrir quelque chose. Donc voilà, ils vont nous donner par exemple accès à ce qui est traduit en français « souvenir », sinon en anglais c'est les « keepsakes ». Donc ça va être une sorte d'objet porte-bonheur runner qui pourra nous accompagner à chaque fois qu'on retourne se battre pour notre quête. Et donc, selon Florentin, mon ami qui a défini un petit peu tout ça dans son mémoire, il définit le care comme une action dans laquelle se retrouve le ou la joueuse et qui se découpe un peu en trois parties. Donc on retrouve la sollicitude qui va se représenter sous la forme de ce qui va être observation, constat, attention bienveillante, portée à tout ce qui va nous entourer, conscientisation de notre responsabilité, l'évaluation, donc la recherche du meilleur comportement adopté, de la meilleure réponse à formuler, la prise en charge, le passage à l'action, la réalisation de l'acte de soin. Donc comme je le disais plus tôt, un roguelike de ce type est loin d'être véritablement reposant et apaisant. Alors avec Florentin justement, on s'est lancé dans un jeu aussi en early access, un cozy game du nom de Cinnabunny, que vous connaissez peut-être. C'est un jeu vraiment tout mignon, très calme, on va incarner un petit lapin et à la manière d'Animal Crossing, on va collecter des ressources pour cuisiner, les offrir aux autres lapins du village. On va ensuite pouvoir acheter de quoi personnaliser notre maison qui nous sert également de boulangerie. Et on peut également financer des projets communautaires pour améliorer le village. Et je trouvais que c'était un bon exemple justement d'un jeu dans lequel le care va être représenté de diverses manières, donc celle que je viens d'énumérer, le fait d'avoir la possibilité donc d'offrir des choses à d'autres lapins qui vont à leur tour nous offrir par exemple de nouvelles recettes, accès à d'autres choses finalement. Et en même temps, on va pouvoir avancer à notre rythme, on a des objectifs, mais ils sont pas pour autant oppressants, on fait un petit peu comme on veut, à la manière qui nous chante. Et du coup, il y a une autre composante à cette notion du care, c'est qu'il va pas y exister de devoir de care, parce que par nature, il doit nous être bénéfique à nous, et à la personne qui va recevoir, si une autre personne reçoit un peu notre action de care. Et par exemple, le fait de prendre soin d'autrui, ça va pas non plus devoir se retrouver sous une forme de dominance, de soumission, parce que, encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir une forme de réciprocité dans le care. Et enfin, il ne peut pas non plus permettre de répondre à toutes les situations. Pour un petit peu conclure tout ça, Florentin, dans son mémoire, il émet diverses hypothèses, et il y a une qui a piqué mon attention. Donc, faut savoir que moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est un peu attrait à comment on peut utiliser le jeu dans des contextes autres que le divertissement. Là, en ce moment, dans mon travail, c'est vraiment de la ludopédagogie. Et là, pour lui, il serait possible d'envisager les jeux vidéo comme des systèmes thérapeutiques, des espaces de soins, de réception du care, soit l'idée de faire l'expérience de la position des bénéficiaires de care par le jeu vidéo. Donc, pour moi, le care aussi pourrait nous être utile, par exemple, en se servant des jeux comme des espaces, finalement, où on peut un peu méditer, par exemple. Alors, on voit beaucoup aujourd'hui de cozy games qui sortent un petit peu de tous les côtés. Et ça nous offre un petit peu finalement une respiration dans la journée. Et ça permet aussi d'expérimenter finalement des situations dans lesquelles, encore une fois, le jeu nous permet d'avoir cet espace où ce qu'on fait, nos actions, n'ont pas un impact réel et immédiat sur la réalité, mais ça nous permet justement de tester un petit peu des choses, de discuter du coup avec certains personnages, comme dans par exemple Life is Strange, où en fonction d'une réponse, on va pouvoir voir que ça va plus ou moins plaire à un personnage et ça va influencer forcément du coup nos relations. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans les jeux que je trouve particulièrement pertinentes et toujours assez intéressantes à avoir à l'esprit quand il est question finalement d'usage un peu détourné, ou pas forcément, mais en tout cas, moi là dans mon cas, c'est vraiment, je vois ça comme une manière d'aborder les jeux différemment et potentiellement les utiliser. Je suis pas psy, je suis pas médecin, mais potentiellement faire usage dans un cadre thérapeutique, dans peut-être de la médiation, ou encore une fois, dans mon cas aussi, dans mon métier, par la ludopédagogie. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.
Et on enchaîne du coup tout de suite avec la chronique de Léa qui nous parle de la relation joueur-PNJ.
Alors, depuis l'aube de l'humanité, on se raconte des histoires. Nos histoires, comme vous le savez, sont rarement innocentes. Elles définissent un cadre culturel, des codes de société à respecter, Elles valorisent certaines actions et en dissuadent d'autres. Bref, elles existent souvent au service d'un ordre social, un ordre social d'humain donc, et par ce biais, elles contribuent à établir des hiérarchies d'autorité et de privilèges. Il se trouve qu'il y a aussi, dans les mondes virtuels de nos jeux vidéo, une hiérarchisation des humains qui les habitent. Tous ne sont pas égaux. Certains ont une apparence unique, un moveset varié et puissant, ils ont une voix, des réactions à certaines actions du joueur, en clair, des attributs qui permettent au joueur de nouer un lien unique avec lui. Et, tout en bas de l'échelle, on retrouve ces personnages qui se promènent dans l'arrière-plan, qui n'ont qu'une apparence générique et clonée, qui n'ont ni voix, ni nom, ni même aucune possibilité d'interaction, et qui disparaissent pour toujours dès que le niveau est déchargé, s'ils ne deviennent pas avant ça du pur dommage collatéral propulsé dans le décor comme un pantin désarticulé au passage du speedrunner qui n'en a pas grand-chose à carrer. En clair, des humains purement mécaniques, aussi exploitables et jetables que les développeurs le sont ces temps-ci. Et ça, c'est s'ils sont seulement représentés individuellement. Prenez la série des civilisations, par exemple. Le peuple que le joueur gouverne est quasiment inexistant, voire complètement invisible. Mécaniquement, la monarchie ne se joue pas très différemment de la démocratie. Le joueur est le seul à permettre le changement en grand prince. Par essence, la nature systémique d'un jeu vidéo, dans lequel un personnage simulé ne pourra jamais être autre chose que ce qu'il est, présente un univers essentialiste dans lequel il n'y a qu'une seule relation possible de l'ensemble des entités qui le composent, à savoir un asservissement total à la volonté du joueur tout-puissant. Bah, que valent alors ces représentations virtuelles de l'humanité ? Ironiquement, le discours mainstream est tellement obsédé par la question de la violence physique dans les jeux vidéo qu'il ne se pose peut-être pas les bonnes questions. Qu'enseignent les jeux aux joueurs sur le pouvoir si toute résistance, toute volonté opposée par une entité virtuelle devient un obstacle à anéantir ? Il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant, l'idée flottait encore que les jeux vidéo seraient des machines à empathie. Ils permettraient de changer les esprits et donc, quelque part, le monde. Les mouvements Gamergate et plus récemment Anti-Woke l'ont depuis bien mis à mal. Clairement, se glisser dans la peau d'un autre n'a pas aidé à ouvrir l'esprit de tout le monde. Alors, je me demande forcément, et je suis naturellement loin d'être la première, je me demande donc parfois, de façon très rhétorique, ce que vaut tous nos efforts pour raconter des histoires humaines si, par nature, la relation entre le joueur et les personnages du jeu est entièrement déséquilibrée. Certains jeux explorent d'ailleurs ce déséquilibre, comme par exemple Beat Buddy, développé par Daniel Mullins. C'est une sorte de Tamagotchi un peu nul, mais qu'on a du mal à éteindre parce que la petite créature dont on est censé s'occuper annonce d'entrée de jeu que si le joueur venait à fermer l'application, elle en mourrait définitivement. Alors, elle le supplie pathétiquement de ne pas le faire, et elle fait de son mieux pour le retenir aussi longtemps que possible. Le joueur peut faire quelques activités un peu moisies avec elle, et puis ensuite, juste attendre jusqu'à la fermeture inévitable du jeu. Et si le joueur venait à relancer le jeu ensuite, il ne retrouverait qu'un petit squelette inerte tout triste. Donc voilà, le pouvoir est toujours entièrement entre les mains du joueur. Dans un autre genre, plus intime, Doki Doki Literature Club explore aussi de façon très méta l'univers du dating sim, questionnant l'artificialité et l'implication morale un peu douteuse de ces harems numériques, en brisant ici aussi le quatrième mur de façon parfois un peu dérangeante, et j'en révèle pas trop. Mais en tout cas, difficile justement de concevoir des romances qui ne se transforment pas en machines à sous. Et malgré les meilleurs efforts des développeurs, qui font de leur mieux pour écrire des personnages vivants et touchants et mémorables, il suffira toujours aux joueurs de suivre un guide en ligne leur permettant à coup sûr, en donnant les mêmes items, comme les keepsakes d'Hades 2, en sélectionnant les mêmes options de dialogue, qu'ils skipperont d'ailleurs à toute berzingue, de scorer comme des champions. Un jeu reste un système déterministe qu'aucune quantité de lignes au monde, qui se compte parfois en millions, ne peut dissimuler entièrement. Un PNJ reste une machine, un joueur un humain. C'est un gouffre infranchissable. Peut-on vraiment ressentir quelque chose d'authentique à leur égard ? L'empathie est une question compliquée dans l'art en général, et dans le jeu vidéo en particulier. Alors oui, les jeux vidéo n'ont pas fait des joueurs de meilleures personnes. L'empathie, comme l'explique le psychologue et chercheur Paul Bloom dans son livre Against Empathy, est souvent mal comprise. Il explique que l'empathie est une mauvaise boussole morale parce qu'elle est sélective, contextuelle et elle est aussi culturelle, interne à un groupe donné. Il soutient d'ailleurs que les racistes sont en général très empathiques car ils se sentent très intégrés dans leur communauté raciale et ils sont fiers de partager leur identité avec ce groupe. L'empathie peut même servir parfois à nuire, et les manipulateurs, les séducteurs, les tortionnaires sont souvent capables d'une très grande empathie cognitive, et c'est justement ce qui les rend dangereux. Il ne suffit donc pas juste de jouer un personnage noir ou un personnage féminin pour être soudainement guéri du racisme ou du sexisme. Mais paradoxalement, c'est aussi cette distance qui permet d'explorer des thèmes difficiles sans être personnellement atteint de façon cathartique. Car bien sûr, si je continue de travailler dans le jeu vidéo, c'est que je crois encore qu'on peut raconter des histoires qui touchent les joueurs, à condition que ceux-ci acceptent de participer. Qu'un jeu peut être une conversation entre un joueur et un développeur. Le jeu vidéo est le médium du choix, et pourtant le joueur a l'habitude que les dilemmes qu'on lui présente dans les jeux mainstream n'aient jamais des conséquences trop douloureuses ou permanentes, qu'elles ne soient jamais trop incommodantes. C'est le paradoxe du jeu vidéo grand public moderne, à mon avis, qui offre un monde virtuel hyper complexe dans lequel le joueur jouit d'une grande liberté tout en étant constamment mis à l'abri des conséquences de ses choix. Mais de temps en temps, des jeux surgissent qui ne montrent pas la même complaisance à son égard. BitBuddy, comme Doki Doki Literature Club, le prennent à partie directement, quitte à le déranger, à mettre un peu à mal cette promesse implicite que le jeu vidéo doit être un défouloir évasionniste où il est le roi absolu. Ce faisant, il crée un rare moment de connexion avec le joueur pour lui demander « Mais tu fais quoi là ?» Et je pense que c'est de ça que le jeu vidéo, aujourd'hui, a un peu besoin.
Merci pour ta chronique. Et première pause musicale avec le Quartz Quadrant G-Mix, composé par Masafumi Ogata pour l'OST de Sonic CD. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'entretien avec l'invité. Et l'invité du jour, c'est Gomeïssa. Aujourd'hui, on parle avec toi de relations entre écologie et jeux vidéo. Tu es éducateur nature et médiateur numérique. Tu t'intéresses notamment à la façon dont les jeux vidéo peuvent servir de représentation pour toutes ces thématiques-là. Bienvenue, merci beaucoup d'être là.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous présenter tes activités d'éducateur nature et médiateur numérique ?
Alors, je ne suis plus vraiment éducateur nature, mais effectivement, quand je travaillais, je faisais beaucoup d'interventions, beaucoup avec des scolaires et avec du public adulte aussi. Et en gros, c'était des interventions pour découvrir un petit peu comment ça marche la faune, la flore, comment est-ce qu'on peut adapter nos activités humaines pour être en harmonie avec tous les habitants d'un territoire et les habitants humains et non humains. Mais c'était quand même très surtout tourné autour de la faune et de la flore pour correspondre au programme scolaire. Et puis aujourd'hui, je fais plus de la médiation numérique. Et donc du coup, je travaille un petit peu autour des bonnes pratiques et puis des points de vigilance à avoir quand on utilise du coup des outils informatiques. Donc ça va surtout tourner autour beaucoup des réseaux. Et puis moi, je me suis forcément beaucoup plus spécialisé autour des jeux vidéo, qui du coup un truc qui m'intéresse du coup depuis mon plus jeune âge. Et du coup, je travaille un petit peu autour des jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est les jeux vidéo ? C'est quoi les pratiques qui y sont associées ? Et puis aussi un peu la culture qu'il peut y avoir autour du jeu vidéo. Ça, c'est quand je m'adresse du coup à des enfants ou à des adultes, ça va pas être la même chose non plus. Et surtout quand je m'adresse à des adultes professionnels, donc là, j'ai aussi un peu la mission de les amener à se rendre compte de comment est-ce qu'on parle des jeux vidéo, comment est-ce qu'on peut les amener, à quoi est-ce qu'ils peuvent servir. On en parlait un tout petit peu plus tôt aussi, on parlait de médiation par les jeux vidéo. Quand le jeu vidéo n'est pas le but de l'action pédagogique, mais c'est simplement un outil qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc là aussi, ça rentre en compte. En gros, voilà un petit peu mon travail. Et je travaille avec plusieurs associations qui font soit de l'éducation numérique un peu plus, comment on pourrait dire, j'ai plus le terme, mais un petit peu de façon officielle, avec par exemple ce que fait à Lyon l'association Fréquence École, qui est beaucoup autour de l'éducation aux technologies. Et puis, un peu plus culturel autour des jeux vidéo, quand je travaille avec Sous les Néons, qui est du coup un collectif dont vous avez déjà reçu dans une précédente émission une personne qui en fait partie, c'était Cassie. Et voilà, en gros.
Et ça a été quoi pour toi l'événement un peu déclencheur qui t'a fait prendre conscience que tu pouvais relier à la fois tes activités professionnelles avec un peu cette passion pour le jeu vidéo et les utiliser de cette manière-là ?
Eh ben, moi j'ai plus ou moins toujours une pratique de jeu vidéo, sauf peut-être pendant une partie de mes études où les moyens financiers étaient beaucoup plus restreints et donc du coup j'ai peut-être moins joué aux jeux vidéo, mais je suis beaucoup revenu un peu par la suite. Et du coup, dans ma pratique du coup d'éducation nature, ça ne faisait pas tellement partie de cette vision un peu professionnelle de comment est-ce que je pouvais mélanger tout ça. Mais par la suite, en médiation numérique, ça s'est beaucoup retrouvé quand moi j'ai dérivé de l'éducation nature pour aller vers les jeux vidéo. Et en fait, j'ai toujours été en lien avec une structure de protection de la nature, qui c'est la réserve naturelle du Marais de Lavour, qui est vers Aix-les-Bains à peu près. Et j'ai toujours eu cette double casquette-là, et donc j'ai beaucoup fait un peu des travaux un petit peu liés de web, de design, visuel, ce genre de choses, pour la réserve, même si du coup la réserve me connaissait à la base pour mon travail d'éducation nature. Puis en fait, de fil en aiguille, on m'a aussi proposé de faire des choses, et notamment, ça s'est beaucoup retrouvé dans le cadre du plan Rhône. Je ne sais pas si c'était une question que je voulais poser plus tard, mais je trouve que ça tombait bien.
Oui, on peut en parler.
Dans le cadre du plan Rhône, l'idée de ce grand projet en fait, national, c'est de remettre un petit peu la culture du risque pour les riverains du Rhône. Donc l'idée, la culture du risque, c'est de se rendre compte que, par exemple, le Rhône, c'est un fleuve qui est vivant, qui du coup a des cycles, des respirations, et que parfois ces respirations les entraînent du coup forcément tous les ans des crues, et donc parfois quand elles vont venir embêter un peu les humains, on appelle ça des inondations. dans ce cadre-là, en fait, il y a eu d'abord une première activité qui était d'aller à l'extérieur, de faire une descente du canoë, d'abord sur la partie endiguée, donc qui du coup est pas très intéressante en termes de biodiversité, et puis ensuite sur une partie qui était plus nature, qui était le Rhône un peu historique. Et là, on se rend compte que bah, forcément, il y a beaucoup plus de méandres, il y a beaucoup plus de gravières, ces zones de galets qui forment des petits îlots au milieu du lit où l'eau coule. Et donc, après avoir découvert un peu la partie éducation nature de cette activité-là, l'idée, c'était que j'intervienne derrière en classe avec les élèves pour leur faire créer des jeux vidéo. Donc, ça veut dire... Avant de vraiment réaliser ces jeux vidéo-là, il a fallu déjà se demander qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo, comment est-ce que ça fonctionne. Donc une première intervention qui était un petit peu pour poser un peu des bases théoriques. Et ensuite, de les faire comprendre aussi que quand il allait falloir qu'ils créent un jeu vidéo, il fallait qu'ils le fassent une sorte de petite liste de courses. Pour se demander, bah, dans notre jeu vidéo, on a envie que ça parle de quoi ? Qu'est-ce qui nous a touché particulièrement, émotionnellement, dans ce qu'on a vécu à l'extérieur ? Qu'est-ce qu'on a envie de traduire dans un jeu ? Donc il y en a qui ont fait des jeux sur des espèces qui sont un petit peu mises en danger. Il y en a qui ont fait des jeux sur l'endiguement pour préserver les habitations de l'eau. Et donc bah, ensuite, ils se sont posé les questions, alors qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Donc par exemple, si je veux avoir du coup un jeu où on va protéger les œufs de cet oiseau qui vit sur les gravières du Rhône, il va falloir que bah, on ait des dessins d'oiseaux. Peut-être qu'il va falloir qu'on en ait peut-être un ou deux ou trois pour pouvoir faire une sorte d'animation. Il va falloir qu'on ait des pieds qui vont peut-être venir mettre en danger la gravière. Il faut qu'on ait un fond de gravière, il faut qu'on ait des images de petits œufs. Et donc ils ont construit tout ça, et ils ont fait aussi la liste de tous les sons qu'ils allaient avoir besoin, et puis des mécaniques qu'il fallait mettre en place. Et donc moi je les ai accompagnés comme ça sur plusieurs séances pour créer des jeux vidéo autour de leur expérience à l'extérieur. Je sais plus c'était quoi la question, c'était comment est-ce que je mets en place. Je me suis perdu tout seul.
Oui, bah tu nous en as pas mal parlé, ouais, de comment tu en étais venu à utiliser le jeu vidéo pour ces questions-là.
Oui, voilà, bah effectivement, voilà, c'est un peu tout ça qui m'a amené un petit peu à faire des ponts déjà que moi j'avais plus ou moins, mais pas concrètement. Ça, c'était il y a un moment déjà, maintenant, c'était en 2018. Et derrière, j'ai aussi commencé, moi, je ne sais pas exactement pourquoi, mais à commencer un petit peu à travailler aussi dans la curation de jeux vidéo, donc pour les associations pour lesquelles je travaillais, donc ça veut dire de faire des sélections pour des événements. Par exemple, on a une année, le thème, c'est le corps, une année, le thème, c'est le temps. Et donc, bah, j'essaie de faire des propositions de jeux vidéo qui vont répondre à ces thématiques-là. Et ben, derrière, moi, je me suis aussi dit, ben, OK, donc ces thèmes-là, on me les demande pour des salons en particulier. Mais moi, un truc qui est à l'intérieur de moi et qui est un peu viscéral et qui est ancré et que j'ai envie de... un sujet qui me tient à cœur tout le temps et sur lequel je me tiens informé et qui, du coup, est une de mes vocations, c'est les écologies, la protection de l'environnement. Donc, du coup, j'ai aussi commencé de mon côté à faire une curation de jeux qui, je trouvais, répondait de façon intéressante, soit dans le propos, soit dans le discours, soit par les mécaniques, à des notions d'écologie ou en tout cas des enjeux de société et qui pouvaient être des illustrations ou des outils intéressants pour en parler.
Est-ce que tu peux justement nous dire quels sont les jeux que tu as un peu sélectionnés ? Tu as fait beaucoup de fiches, je crois, tu as quand même repéré beaucoup de jeux. Mais voilà, quels sont les jeux qui parlent un peu de ces sujets-là ?
Ouais, effectivement, j'ai depuis 2 ans à peu près que je collecte des jeux. Il y en a un paquet, il doit y en avoir, je crois qu'il y en a 80 là dans ma liste, que je trouve particulièrement intéressant et sur lesquels j'ai envie effectivement de développer une petite fiche pour, rendre cette liste de curation un peu plus accessible et puis pour aussi expliquer pourquoi est-ce que je l'ai mise dedans. Et puis en fait, moi, ça me permet aussi de m'entraîner aussi à faire un petit peu de rédaction. Dans ces jeux-là, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, effectivement, on va avoir des jeux qui sont... j'essaie de varier un peu, comme quand je fais de la curation pour des événements. J'essaie d'avoir une approche qui va varier un petit peu les modes, les rythmes. Est-ce qu'on va avoir des jeux d'action et puis des jeux plutôt contemplatifs, des jeux qui se jouent seuls et des jeux qui se jouent à plusieurs. Puis aussi, bah, des jeux qui vont être de différentes ambitions, enfin, dire, en tout cas de différents budgets. Des jeux qui vont être peut-être des triple A jusqu'à des jeux qui sont des jeux libres, des jeux qui sont disponibles sur Itch et auxquels on peut jouer gratuitement. Donc il y a toute une variété comme ça, effectivement. Je trouve assez peu de jeux triple A, mais on retrouve beaucoup de jeux indépendants et quelques jeux libres, et j'ai même mis un petit peu dessus sur cette curation aussi des jeux de rôle et des jeux de société, même si c'est pas exactement la thématique des jeux vidéo, mais je trouvais qu'ils étaient quand même particulièrement intéressants et qu'ils méritaient vraiment de faire partie de cette façon de rendre par le jeu et par des mécaniques de jeu qu'elles soient vidéo ou pas en tout cas, des notions d'écologie. Donc ouais, dans cette sélection, il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Et quand tu es en contact avec le public, comment tu fais justement pour t'y prendre, enfin comment tu t'y prends pour justement faire passer les messages ou que tu souhaites faire passer. Et puis en plus, j'imagine qu'en plus, ça se fait sur des temps restreints, tes interventions. Quel jeu tu choisis, comment tu t'y prends pour sensibiliser un peu les publics?
Eh ben ouais, donc quand je fais une sélection, je fais toujours en sorte que chacune des personnes qui va venir à ce temps-là puisse trouver sa propre porte d'entrée. Donc je vais avoir des jeux qui vont être plus calmes, je vais avoir des jeux d'action, je vais avoir des jeux où il faut jouer ensemble, des jeux où il faut jouer l'un contre l'autre ou l'une avec l'autre, histoire que tout le monde trouve un petit peu un jeu à son goût. Et moi, dans l'idée, après avoir un petit peu recueilli un peu d'où les gens partent, parce que si j'ai affaire à des gens qui vont tout de suite... Enfin, je leur demande un petit peu, en gros, c'est quoi pour eux, du coup, l'écologie et c'est quoi les enjeux de l'environnement en général. Si je vois que les gens me sortent des trucs déjà très pointus, je sais que je vais devoir adapter un petit peu mon discours. Et puis si, au contraire, ils me sortent des choses qui sont très superficielles ou très, très évidentes, je vais aussi m'adapter de façon à ce que ça les nourrisse de façon pertinente. Ensuite, l'idée, c'est aussi de voir du coup comment est-ce qu'on peut y répondre par un jeu vidéo. Et donc déjà, moi, c'est aussi l'intérêt de montrer que le jeu vidéo, c'est pas seulement effectivement son texte ou ses visuels. Ça va être aussi les règles qu'il nous donne, ce qu'il nous laisse faire et ce qu'il nous donne pas la possibilité de faire. Enfin, en tout cas, hors du monde du speedrun, justement, où on se rend compte qu'on peut faire des choses étranges au jeu. Après avoir du coup posé ces choses-là, du coup, l'idée, c'est de les faire tester. Et de les faire aussi verbaliser justement ce que le jeu dit, est-ce qu'il y a de la cohérence aussi avec ce que le jeu nous fait faire. Ça, c'est un petit peu l'idée de proposer une sélection sur ce thème-là. Après, justement, ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir les faire à leur tour créer du jeu, parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai appétit aussi de... pas forcément de créer des jeux, mais en tout cas dans la sphère des game jams, donc ces moments où on crée des jeux vidéo pendant le temps d'un week-end, on connaît vraiment très bien ce genre de game jam où il y a des thématiques très, très cool et très sympas, hein, genre les dinosaures, et si vous étiez, je sais pas, un grippin, des trucs comme ça. Ben en fait... On se rend compte aussi que quand on propose des game jams, il y a aussi un vrai intérêt pour les gens qui y participent à ce que du coup la création, elle ait aussi un intérêt social, qu'elle ait une utilité sociale, je veux dire. Et c'est pour ça que des jeux vidéo derrière qui peuvent justement, une fois qu'on a vu un peu comment est-ce qu'on pouvait faire, et ben est-ce que nous aussi on peut s'emparer de ce truc-là pour venir créer des jeux sur des sujets qui nous plaisent. Bah, c'est un peu un truc qui peut émerger pas mal, et c'est un truc du coup qu'on avait aussi fait, c'était un peu la façon dont on avait aussi abordé les choses avec, dans le cadre du plan Rhône, pour faire que les enfants créent ces jeux.
Et est-ce qu'il y a des jeux que tu as un peu répertoriés qui abordent des sujets de niche sur l'écologie, des sujets qui passent un peu sous les radars même sur les autres canaux médiatiques, pas que le jeu vidéo. Est-ce que toi, il y a des jeux comme ça que tu as repéré et qui te semblent importants de partager?
Waouh, des jeux qui parlent de sujets un peu niches. Ben, moi, j'en ai, pour moi, effectivement, c'est vrai que je me pose la question, parce que, effectivement, pour moi, c'est pas vraiment des sujets de niche, mais effectivement, c'est des sujets qui sont effectivement très... Enfin, moi, je pensais tout de suite à des sujets qui sont peu porteurs. Effectivement, ça me fait penser à des jeux qui vont être autour de l'exploitation animale au sens large. Ça, je pense que c'est un sujet de niche. Pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais effectivement, c'est un truc qui est pas forcément très, très adopté, en tout cas dans les faits, par beaucoup de monde. Je sais pas si c'est exactement ça que tu voulais te parler, mais ouais, c'est des sujets effectivement dont peu de studios s'emparent, et encore moins du coup les grands studios qui font sortir des blockbusters, des AAA, parce que clairement on est sur des sujets qui donnent lieu à pas mal de frictions, et c'est compliqué. Et puis de toute façon, ce genre de studios là vont aussi beaucoup coller à des formules qui sont un peu sans risque d'un point de vue financier. Mais là, récemment, j'ai fait une fiche sur le jeu Ape Out, qui est un espèce de jeu un espèce de beat'em all, quoi. On va parcourir des niveaux très rapidement en fracassant un très grand nombre d'opposants. Ça ressemble beaucoup à Hotline Miami. Ouais, exactement. Il ressemble beaucoup à Hotline Miami dans le sens où c'est un peu vu du dessus et puis c'est très nerveux. La différence, c'est que Hotline Miami, ça va être un petit peu plus du par cœur parce qu'un niveau est déterminé. Là où dans Ape Out, les niveaux, ils vont être générés procéduralement. Donc, on n'a pas beaucoup le temps de faire du par cœur. En fait, on est très, très pressé. Et c'est un jeu qui au départ m'a plu parce que bah, en fait, tout bêtement, il parle d'un gorille qui veut se libérer. Donc, bah, il se libère au début et puis bah, après, il faut parcourir le niveau pour attendre très, très vite la sortie. Et on n'a pas le temps de réfléchir et ça va très vite et du coup on est hyper stimulé, enfin on se retrouve assez rapidement dans un état de flow, ça marche pas mal. Et en fait, il y a un moment donné où je l'ai un peu lu différemment, au début je le regardais comme un jeu très fun, très rapide, très cool, un peu de fantasme de puissance quoi, on est un gorille, on défonce tout le monde, il nous tire dessus et puis en fait on s'enfuit, haha je suis très fort, je suis très malin. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai eu une espèce de bascule où je me suis rappelé d'une histoire. C'est une histoire d'une éléphante qui a été capturée dans les années 70 au Mozambique. Et puis pendant 20 ans, elle a été torturée pour être dressée, pour faire des tours dans des spectacles de cirque. Et à un moment donné, il y a eu plusieurs fois où en fait, elle s'est rebellée parce qu'en fait, c'est une personne, et puis au bout d'un moment, quand elle veut pas faire un truc, elle le veut pas. Et si on lui fait beaucoup de mal, et bah, elle va réagir très fortement à l'inverse. Mais un jour, du coup, dans les années 90, elle a décidé qu'en fait, là, ça suffisait. Et du coup, elle s'est barrée encore plus violemment que les autres fois. Et elle a défoncé tout le monde. Et elle s'est barrée sans réfléchir. Elle a fait un tour de piste parce qu'elle savait pas trop où était la sortie. Puis elle a fouillé, puis elle a vu des gens qui se barraient. Du coup, elle a regardé, elle a vu qu'il y avait une porte. Elle s'est barrée par la porte. Et ensuite, elle s'est enfuie dans les rues. Et elle a évité les gens, il y a des images où on la voit contourner les voitures, courir dans la rue, pas trop savoir où est-ce qu'elle va, à gauche, droite, allez vas-y, t'inquiète, tout droit. Et en fait, elle est dans le même état que nous on est quand on joue ce gorille. Et là, en fait, ça m'a fait un espèce un petit peu de choc. Je me suis dit, en fait, le jeu, il est très fun, mais en fait, en vrai, ce qu'il raconte, ce sont des vraies histoires en fait, d'animaux qui décident qu'en fait, ils sont pas là pour se faire battre, ils sont pas là pour se faire maltraiter, ils sont pas là pour se faire tuer, et ils disent en fait non, moi s'il faut je vais me barrer quoi. Et vraiment Ape Out, c'est ce jeu là quoi, ça m'a fait un choc assez fort là-dessus.
Et tu racontes même que, et c'est d'ailleurs assez triste, que ce n'est même pas volontaire de la part des développeurs.
Alors non, c'est intéressant, ça c'est pareil, c'est aussi une histoire de création de jeux vidéo, effectivement. Je me suis dit, mais moi ça me paraissait si évident que c'était toutes ces histoires d'animaux qui brisent leur chaîne et qui décident d'être libres. Et en fait, en cherchant du coup dans les interviews, je me suis rendu compte qu'en fait, à la base, c'était parce qu'il fallait... c'était un jeu un peu d'infiltration. En fait, on se rendait compte que du coup, on pouvait coller un peu au mur, puis on pouvait peut-être... Ce serait marrant si on pouvait saisir les bonhommes, enfin les ennemis. Mais du coup, un personnage humain qui saisissait des ennemis, ça marchait pas trop. Du coup, le créateur, Gabe Cusillo, il s'est dit, bah tiens, et si je mets un gorille... Ah ouais, un gorille qui saisit des bonhommes et qui les projette contre les murs, ça marche vachement mieux. Et en fait, partant de là, le jeu est devenu un jeu avec un gorille qui s'échappe. Et effectivement, dans aucune des interviews, il n'est jamais mention de libération animale ou de propos vaguement animalistes, quoi. Pourtant, c'est obligé que, en fait, ce jeu il fasse référence à ça, même si ce n'est pas forcément très volontaire ou en tout cas pas assumé. Parce qu'en fait, voilà, on joue un singe dans le premier niveau, on joue un singe qui s'échappe d'un laboratoire scientifique, puis dans le deuxième, on s'échappe d'une cage qui est dans un immeuble, je sais pas trop ce que c'est comme contexte, j'ai pas trop compris. Dans le troisième niveau, c'est un espèce d'état en guerre. Puis dans le quatrième niveau, c'est je trouve celui qui est plus intéressant, le niveau commence, on se balade dans la jungle, et tac, on se prend une fléchette qui nous endort, on se retrouve dans un conteneur, sur un bateau, et puis du coup on défonce le conteneur et on parcourt le bateau, on remonte tous les ponts jusqu'à arriver sur le pont... à l'air libre, quoi. Et puis on s'échappe du coup sur le quai, sur les docks, et au final on est quand même rattrapé. Et du coup il y a un épilogue à ça, on est dans une cage, dans un zoo, et on va défoncer la cage du zoo, et en fait on peut défoncer toutes les autres cages du zoo, et à chaque fois il y a des animaux du coup qui sortent de la cage et qui sont avec nous, et qui du coup ben, sont aussi contre les gardiens qui nous tirent dessus. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, on pète la grille finale, et puis là il y a un morceau de trompette qui éclate et qui est triomphal, et c'est le morceau qui a vachement orienté toute la direction artistique du jeu. C'est un morceau que, que le créateur Gabe Cusillo écoutait quand il faisait son prototype et quand il a dû faire une bande annonce de ce prototype, il a utilisé cette musique là qu'il écoutait en boucle à ce moment là et il s'est dit elle est trop bien, je la mets. Et en fait elle a donné une teinte, elle a donné le propos, elle a donné une époque, elle a donné un style visuel, elle a donné tout un tas de choses. Elle a aussi orienté vachement la musique du jeu, qui est une musique qui est faite que de batterie et qui est du coup de la musique dynamique qui réagit à toutes les actions qu'on fait ou qu'on fait pas. Donc, ouais, c'est ce jeu-là, il est intéressant. Je pense que du coup, le fait que ces personnes aient choisi ce propos-là, parce que ça reste quand même des animaux qui s'évadent, toujours qui s'évadent, et au final, on nous montre bien par la mise en scène que, en fait, le but du jeu, c'est d'être libre. Et la musique elle-même du jeu dit ça. Le titre en question, c'est « Tu dois avoir la liberté ». Donc ouais, en fait, c'est marrant de voir comment ces questions-là, elles ont vachement infusé, en fait, plus ou moins, en fait, les personnes qui ont créé ce jeu, même si peut-être qu'ils n'ont pas forcément d'affinité avec les luttes animalistes.
Ouais, Ape Out, un jeu à faire si c'est pas déjà fait. Il fait partie de ta longue sélection via ton outil de curation Fulido. Je vois que le temps passe, donc on poursuit cet entretien juste après la pause musicale. Nous écoutons Love, composé par Retro Family et Adam Axtrand pour l'OST de Shelter 2. Thank you. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Gomeissa, éducateur nature et médiateur numérique, et le reste de l'équipe pour la suite de l'entretien. Gomeissa, pourquoi est-ce que tu as choisi cette musique aujourd'hui ?
Eh ben, c'est la musique d'un jeu vidéo qui, déjà, musicalement, je la trouve hyper touchante. Effectivement, c'est aussi parce qu'ayant joué au jeu, je revis toujours un peu le moment où cette musique arrive. C'est un jeu qui est très singulier, qui a choisi de raconter du coup une maman lynx qui élève 4 petits bébés dans des grands espaces, probablement nord-américains. Et ce qui est assez étonnant, c'est que il y a vraiment dans ce jeu aucune trace humaine. Il y a ni route, ni poteau électrique, ni rien. On croise jamais rien d'humain. Ce qui n'est pas en soi complètement aberrant sur la planète, mais pour un jeu fait par des humains, je trouve que c'est un choix qui est assez intéressant d'avoir mis zéro trace humaine, et je pense que c'est volontaire dans le sens où ça se retrouve même dans la façon dont le jeu communique avec nous en jeu, parce qu'il n'y a jamais de texte. Alors bien sûr, quand on lance le jeu, il y a un bouton démarrer ou nouvelle partie, mais à partir du moment où on joue, il n'y a plus rien, il n'y a plus de texte. Et tout se fait par des signes visuels. C'est assez chouette. Et ouais, c'est un jeu qui m'a vachement touché. C'est un jeu que j'ai aussi voulu. Enfin, c'est même un jeu que j'avais, je crois, abordé pendant le recon du stream, le stream qui refaçait des bénéfices pour les grèves il y a, je sais plus, 3-4 ans. C'est un jeu que j'avais choisi de montrer à faire avec un ami qui était juriste de l'environnement. Enfin, c'est un jeu qui est super beau, qui est effectivement dur, parce que, comme son nom l'indique, Shelter, on est là pour protéger ces 4 petits lynx. Et puis, ben, la nature, c'est pas tendre. La nature, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi être parfois des choses qui se passent sur lesquelles on peut pas revenir. Et il faut être prêt à peut-être pas forcément finir l'aventure avec les 4 petits lynx. Mais il est génial, et visuellement, il a aussi un choix très étrange d'avoir aucune texture réaliste, mais que des sortes de... ce que j'appelle du papercraft. C'est des sortes d'imprimés un peu stylisés, et ce qui donne vraiment une ambiance hyper particulière au jeu. Enfin, voilà.
Et on poursuit cette seconde partie d'entretien avec les questions des chroniqueuses. Léa.
En tout cas, merci pour l'entretien, c'était très intéressant, beaucoup de super recommandations de jeux. En tout cas, je trouve que la démarche, elle est intéressante, elle est intrigante de créer un petit peu des jeux autour de ces thèmes-là, de stimuler cette sensibilité-là via le processus de création de jeux, parce que je me dis, il y a un côté un peu... je me demande si ça enseigne un petit peu à prendre une part un peu active en montrant que... en instigant un petit peu, en quelque sorte, de l'action, en créant des jeux où on... Alors, je ne sais pas forcément quel a été le résultat de ces jeux, mais où on défend un sujet et donc, du coup, on prend une... créer un environnement dans lequel on peut prendre une part active, et si quelque part, est-ce que ça, derrière, ça instigue aussi un petit peu l'action, on se rend compte, est-ce que ça donne l'impression que, ah oui, je peux peut-être faire des choses, des petites choses localement, ou à mon échelle, quelque part.
Ben ouais, carrément. En fait, alors déjà, ces jeux, effectivement, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Alors, ils sont tous jouables en ligne sur le webdoc qui en fait accueille tout le projet qu'on a fait avec la réserve naturelle. Donc si vous allez sur le site de la réserve naturelle du Marais de Lavoux, vous allez avoir sur le côté gauche, je crois, un petit encart avec un petit oiseau qui s'appelle un petit gravelot, qui est un peu l'animal emblématique de ces interventions-là, qui se trouve sur le côté, et si vous cliquez, vous allez dans le webdoc, qui retrace donc un petit peu tout ce qui a été fait pendant plusieurs années de Plan Rhône. Donc il y a eu de la création de jeux vidéo, il y a eu de la création de petits courts-métrages, il y a eu de la création d'interviews aussi, un petit peu. Il y a eu plein de choses qui ont été faites, mais notamment, du coup, ces jeux vidéo-là. Ce qui est intéressant, c'est quand tu fais ces jeux vidéo-là, bah en fait, si tu te dis, bah tiens, je vais faire un jeu sur ce petit gravelot-là qui est en galère parce que bah, les touristes, ils sont bien gentils, mais s'ils viennent poser leur serviette sur sa gravière, bah en fait, ça, ils vont peut-être écraser des œufs au passage et c'est con parce que bah, c'était mes petits. Donc déjà, rien qu'en termes de connaissances, en fait, ça participe à consolider du coup bah, ces connaissances. Et puis, d'un point de vue un petit peu de savoir-être, en fait, le fait de se dire, bah en fait, je vais faire un jeu de ça, je pense que ça participe forcément au fait de se dire, en fait, c'est un sujet. C'est un peu genre it's a thing, quoi. C'est un sujet, c'est digne d'intérêt, au point qu'en fait, on va en faire un jeu. Alors que normalement, les jeux vidéo, c'est que pour raconter des histoires incroyables, des trucs qui valent le coup, quoi. Et ben là, en fait, j'ai fait un jeu sur cet oiseau-là et sur ses difficultés. Donc, je pense que oui, forcément, ça participe à se dire que c'est un sujet digne d'être raconté. C'est un sujet digne d'être mis en jeu vidéo. Et puis, bah, au-delà de ça, il y a toujours un peu le côté éducation aux médias. Hein, quand on crée quelque chose, s'il y a des enfants qui créent un podcast, bah après, ils vont savoir repérer bah, peut-être un bon podcast et puis se dire comment est-ce que c'est fabriqué. Et puis, quand ils vont en écouter un, ils vont se dire, tiens, c'est chouette de comment ils ont fait. Je vois à peu près comment ils ont fait et c'est pas con. Enfin, il y a une forme d'éducation aux médias par-dessus tout ça, quoi. Je sais pas si je réponds exactement à ce que tu disais, mais en tout cas, ça m'évoque tout ça.
Tizona, également, tu avais une question?
Oui, alors c'est une question qui est assez terre à terre. Maintenant, dans certains dossiers de financement de projets en France, notamment de projets de jeux vidéo, alors j'imagine que ça s'étend aussi à d'autres types de projets, mais maintenant, on a des critères qui sont liés à tout ce qui est thème, pratique, à l'impact écologique dans des projets de jeux vidéo, que ce soit dans leur contenu ou dans les conditions de leur création. Est-ce que tu penses que ça peut être des accélérateurs ou des vecteurs pour placer l'écologie dans un propos plus central, que ça pourrait éventuellement, qu'on pourrait se retrouver avec davantage de jeux qui placent ces sujets au centre?
Ben alors, je ne sais pas si en France, ce qui est recouvert par le terme, du coup, tu as employé le mot écologie, j'imagine que c'est des questions qui abordent dans comment est-ce que l'entreprise qui crée les jeux se fournit en électricité, comment est-ce qu'il se chauffe, comment est-ce qu'il, ce genre de choses-là, peut-être?
Il y a de ça, j'ai l'impression. Après, j'avoue que je pose une question sans forcément être à 100%, enfin connaître à 100% les détails. Je sais qu'il y a des éléments qui sont liés aussi à l'éducation, donc j'ose espérer qu'il y a des choses qui sont assez connexes par rapport à ça. Et je me dis que ça peut peut-être être des pistes. Bon, ça fait un petit peu carotte quand même, même si je ne jette pas la pierre à des studios qui essayent de se raccrocher à la moindre aide. Et je ne sais pas, je me dis peut-être que ça peut pousser certains studios à s'orienter vers ces sujets importants et peut-être créer des jeux qui à la fois pourraient profiter, enfin mettre en avant ces propos et aussi profiter dans un aspect de médiation. Peut-être suis-je un peu trop optimiste par rapport à ça.
Bah en fait, il y a un peu les deux. J'ai plus le truc exactement en tête, mais en fait, en France, je connais assez peu ce genre d'opération-là, mais par exemple, dans le cadre du jeu Alba Wildlife Adventure, c'est un jeu du coup du studio, alors ça s'appelle Ustvo, ou alors Ustu, je sais pas comment ça se prononce, mais comme c'est, je crois que c'est, ça vient un peu dans Scandinavie, donc j'aurais tendance à dire Ustvo. Mais ce studio-là, il fait partie de la dynamique, ou en tout cas ils ont le label Playing for the Planet, qui regroupe un ensemble de cahiers des charges pour les studios qui veulent du coup rejoindre ce mouvement-là, qui est à la fois du coup effectivement comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils obtiennent l'énergie qui leur sert à fabriquer les jeux. Donc on est vraiment purement sur des questions d'énergie et d'environnement. Et en même temps, ça implique aussi une façon de tenir un propos sur la place de l'environnement et de la nature et des interactions avec les écosystèmes dans le jeu. Donc c'est un truc qui se retrouve beaucoup, en tout cas dans leurs deux derniers jeux. Enfin, je crois que c'est eux aussi qui avaient fait Monument Valley, je crois. Mais en tout cas dans Alba, bah, clairement c'est une petite fille qui va clairement faire exactement un programme d'éducation nature. Enfin, c'est vraiment ça reprend plein de choses qu'on fait nous dans le cadre de l'éducation nature. Et leur jeu aussi qui s'appelait Assemble with Care, qui est très chouette. C'est un jeu de réparation d'objets cassés. Moi, je le place aussi carrément dans cette dynamique-là, dans le sens où on va faire du coup de la réparation de choses qui auraient pu être tout à fait rachetées ou en tout cas rachetées à neuf, quoi. Et donc là, l'idée, c'est de réparer les choses. Donc on est vraiment sur cette idée aussi de se dire, en fait, c'est trop bien de réparer une vieille Game Boy, un tourne-disque, un truc. Donc c'est un jeu qui se passe dans les années 80, fin 80-90. Donc on n'a pas à réparer un smartphone ou un laptop, quoi, mais en tout cas, c'est clairement des dynamiques, ou en tout cas des questions qui sont mises en scène dans le jeu, et ça, c'est assez chouette. Donc, est-ce que du coup, on peut avoir des financements en privilégiant ce genre de choses? Je sais pas du tout. Moi, j'ai jamais entendu parler de ce genre de choses-là. Je pense qu'on n'y est pas encore. Que c'est pas trop la dynamique. Déjà, en fait, avoir des financements pour le jeu, c'est chouette. Mais qu'on en est sur ces thématiques-là, pas encore. Mais effectivement, il y a plein de programmes en fait qui existent, et je crois qu'il y a aussi Plan B, hein, qui est aussi, enfin il y a deux trois programmes comme ça qui vont vraiment mettre en avant en tout cas des studios qui font attention à comment est-ce qu'ils créent leur jeu et puis quel jeu ils créent concrètement aussi, de quoi ça parle, quoi.
Anna, tu souhaites intervenir?
Oui, merci beaucoup déjà Gomeïsa pour ton intervention et surtout pour tout ce que tu as fait en lien avec le jeu vidéo et l'écologie. Je trouve que c'est ultra intéressant et c'est vrai que en fait on en parle de plus en plus, mais on n'en parle jamais vraiment assez. Il y a deux choses qui m'ont interpellée. La première, c'est Fréquence École, parce que j'ai eu l'opportunité justement de travailler avec Fréquence École lorsque j'étais encore étudiante en master à Lyon. Et on avait travaillé ensemble justement dans le cadre de la promotion en fait de journées autour du jeu vidéo pour justement casser un petit peu les clichés et montrer que le jeu vidéo ça pouvait être aussi un outil d'apprentissage, un vecteur en fait de rencontres, etc. Et on avait aussi travaillé ensemble justement dans le cadre de réalisation de vidéos qui visaient en fait à sensibiliser à des sujets environnementaux, au gaspillage, et c'était vraiment très très cool. Je me rappelle qu'il y avait une dimension ludique qui était toujours apportée, et le soin en fait de faire passer un message avec subtilité, mais en fait aussi pour non seulement sensibiliser, mais essayer de toucher les gens en plein cœur pour les pousser à agir. Donc ça m'avait vraiment, ça m'a beaucoup plu de savoir que du coup c'était il y avait toujours en fait des efforts qui étaient faits. Et puis ce que tu disais m'avait aussi beaucoup fait penser à Firewatch. Je sais que c'est pas du tout le type de jeu qu'on a tendance à citer quand on parle d'écologie, mais c'est vrai que moi c'est un jeu qui m'a quand même marqué à ce niveau-là, parce que déjà le jeu est très beau et met beaucoup en avant justement cette nature luxuriante, etc. Et je pense que d'une certaine manière, enfin c'est très personnel, mais le fait d'avoir incarné justement un garde forestier, moi, m'a donné ce sentiment d'être un peu responsable en fait de cet environnement, de cette nature qu'il fallait à tout prix protéger. Et je me souviens d'un moment dans le jeu où en fait on trouve une petite tortue trop mignonne et on se dit mince, en fait il y a un feu de forêt, cette petite tortue-là, elle peut mourir. Et du coup, c'était tellement réaliste. C'était tellement bien dessiné, tellement... Enfin, si vous n'y avez pas joué, je ne peux que vous conseiller. Le jeu est assez extraordinaire, que ce soit en termes de narration, en termes artistiques. C'est vraiment un très, très beau jeu. Et c'est vrai que j'avais trouvé que la dimension, en fait, environnementale était vraiment très présente et qu'elle pouvait, en fait, sensibiliser sans pour autant que ce soit verbal, mais ne serait-ce que par les décors luxuriants qui peuvent en fait perdre de leur couleur, perdre de leur, on va dire, de leur vivacité, justement, lorsqu'elles sont en danger. Donc, je te remercie pour toutes tes recommandations aussi, parce que c'est vrai que t'as cité de très, très beaux jeux, et c'est un sujet tellement, tellement important. Donc voilà, merci beaucoup.
Effectivement, Firewatch, il est aussi pour moi très important là-dessus. Par contre, moi, vraiment, il y a un truc qui me chagrine, parce que depuis donc des années que le jeu est sorti, je vois des screenshots avec cette tortue et des gens qui parlent de la tortue, et moi, quand j'y ai joué, je n'ai pas croisé cette tortue. Du coup, ça me fume. Pourtant,
ah non,
je l'ai
fumé
le jeu, donc je ne suis pas passé par la tortue, ou alors je l'ai complètement oublié. Mais ouais, effectivement, Firewatch, il est très chouette, et je l'avais utilisé pour l'instant, j'ai fait qu'une seule vidéo, parce que en fait, le montage, c'est très difficile, je trouve. Et du coup, dans la première vidéo que j'avais faite au sujet des écologies, justement, je l'utilise parce que je trouve que ce jeu-là, il m'a procuré un truc qui est du coup difficile à partager, parce que je pense qu'il faut y jouer quand même pas mal d'heures
pour que ça émane suffisamment et qu'on se le prenne un peu à l'esprit et de se dire « Waouh, en fait, c'est vraiment très très beau ce que j'ai sous les yeux. » Il y a quelque chose de fort qui se passe. Moi, ça m'a, je crois que c'est le moment où il mange un petit sandwich tout pourri au bord d'une falaise. Et puis vraiment, je me suis dit « Waouh, enfin, quand même, c'est vraiment beau. » Le jeu, puis en fait, c'est beau parce que ça montre, donc la nature. Et je trouve qu'il y a un petit côté un peu d'éducation dans le sens où quand tu te promènes avec tes enfants et que tu as peut-être des gens qui sont à côté de toi et qui disent « Waouh, regarde, c'est super beau. » Et puis en fait, t'apprends qu'en fait c'est beau. Enfin, il y a aussi un peu ce côté-là. T'apprends un petit peu ce qui est important pour les gens que tu côtoies. Et en fait, bah, le fait de partager un peu ça avec ce personnage-là, il y a un peu ce côté-là, il y a un peu cet aspect-là qui émane aussi un peu de se dire il trouve ça beau, bah, peut-être parce que c'est beau. Et du coup, je l'apprends aussi un peu, même si effectivement, encore une fois, c'est pas un PNJ parce que c'est celui qu'on joue. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'autre et quelqu'un de programmé qui nous raconte ça. Mais je trouve que ça marche quand même. Et effectivement. Encore une fois, peut-être que du coup, de faire un héros de un personnage de jeu vidéo qui est juste un gars qui a décidé d'aller être volontaire pour filer un coup de main et surveiller un peu qu'il n'y a rien de trop grave qui se passe là-bas, et d'en faire une histoire qui est digne d'être racontée, encore une fois, je trouve que c'est chouette. Je trouve que ça aussi, ça nous dit des choses, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tout à fait.
Merci beaucoup, Gomaïssa. Merci à toutes les chroniqueuses pour vos questions. On enchaîne tout de suite avec ta chronique, Anna. Une fois n'est pas coutume, tu nous parles aujourd'hui de speedrun.
Tout à fait. Alors je vous propose du coup une chronique sur la redéfinition du speedrun. Donc je profite justement de la chronique de Tizona qui a été lancée en début d'émission pour revenir sur cette pratique, ou plutôt sur ce détournement du jeu vidéo qui défie les règles vidéoludiques communément admises, à savoir le speedrun. Donc, en effet, Speedon, ayant eu lieu ce week-end, le week-end dernier, pardon, et ayant déjà, cette année encore, ayant fait beaucoup parler de lui, a inspiré quelques-unes de nos chroniques ce soir. Donc, au programme de l'événement, plus de 2 millions d'euros récoltés et de nombreux opus speedrunnés, parmi lesquels des exploits très attendus sur des jeux comme La Légende de Zelda, Mario Kart ou encore Prince of Persia The Lost Crown, pour ne citer que les gros titres, avec bien évidemment différentes difficultés imposées, parce que sinon, c'est pas drôle. Pour l'écriture de cette chronique, je me suis donc laissée embarquer par 3 speedruns en simultané du jeu réputé le plus difficile de From Software, Elden Ring. La contrainte Any% glitchness, ce qui veut dire atteindre l'objectif principal le plus vite possible sans se concentrer sur les progressions secondaires. Autre difficulté supplémentaire, l'usage des glitches était interdit pendant la run. Donc pendant environ 1h30, on voit s'affairer 3 vaillants chevaliers qui bravent avec une aisance presque insolente les boss les plus difficiles du jeu. Ils sautent sur les racines des arbres et les obstacles en pierre avec une habileté digne des meilleurs danseurs de l'Opéra de Paris, maniant ainsi la souris et le clavier comme de véritables chefs d'orchestre, soit avec finesse et précision. Bien que la chute soit parfois inévitable, la satisfaction quant à elle n'est que plus grande quand on voit 2 de nos joueurs affronter le boss final en seulement quelques secondes. Un coup d'épée par-ci, un déplacement par-là, Ragadon est à terre. Sur l'écran, ça paraît presque simple, mais n'oublions pas que chaque placement est minutieusement calculé, de même que chaque déplacement. Le tout résulte presque d'une équation mathématique, car battre un boss final en seulement quelques secondes relève d'une stratégie pensée au millimètre près. Et le jeu est ainsi terminé en 1h08. Quand on sait qu'il ne faut pas moins d'une centaine d'heures pour terminer la quête principale d'Elden Ring et la partie exploratoire, on est forcé de tirer sa révérence devant cette prouesse. Se pose alors la question, pourquoi fait-on cela ? Eh bien, parce que c'est possible, tout simplement. C'est là tout le paradoxe du speedrun lorsqu'on sait que la grande majorité des jeux ont pour objectif de faire en sorte que le joueur y passe le plus de temps possible. Mais qu'en est-il de l'inverse ? Eh bien, le speedrun apparaît comme une sorte de personnalisation et de mise en spectacle du jeu vidéo et de sa pratique. En effet, il encourage le joueur à sortir de sa posture habituelle pour se substituer à celle d'un médecin légiste. Alors accrochez-vous bien, ça va être gore. Le joueur enfile donc sa blouse et ses gants et se lance dans une véritable autopsie du système de jeu afin de le décortiquer, de le déconstruire et d'analyser tous ses secrets et toutes ses failles. En incisant finement la chair du jeu, le joueur va s'approprier les glitches et les autres bugs qui lui seront utiles pour sa run. Il va ainsi appliquer un nouveau mode de jeu avec une nouvelle structure ou un nouveau squelette, plus complexe et plus précis. Il s'agit là d'une réinvention du jeu vidéo lui-même. Le joueur choisit ses propres règles et il s'impose de nouveaux challenges. Le jeu devient ainsi un palimpseste sur lequel le speedrunner écrit sa propre trajectoire. Une fois le jeu découpé, le joueur le rafistole avec minutie. À l'image de Mary Shelley, il donne naissance à sa propre figure de Frankenstein. Mais ce Frankenstein des temps vidéoludiques est loin d'être la créature d'un seul joueur qui est en réalité le travail de toute une communauté de speedrunners et de speedrunneuses, comme vous l'a très bien dit notre chroniqueuse tout à l'heure. Et ces personnes œuvrent à leur tour à créer ce qu'on appelle le speedrun. Car le speedrun est avant tout une construction collective où chaque run n'est jamais une fin en soi, mais bien une étape vers un nouveau record. Pour conclure, je vous laisserai donc sur cette métaphore de Fanny Barnabé qui nous dit « Le speedrun est comme une partition de musique, chacun l'écrit, mais c'est le meilleur qui la joue. »
Merci beaucoup Anna. Komaïssa, tu voulais réagir ?
Ouais, alors pour le coup, c'est pas exactement pour parler de speedrun, mais c'est quelque chose qui est très semblable, je trouve. En fait, le speedrun, du coup, c'est vraiment de se dire « Vous m'avez proposé ce jeu-là, et ben moi, en fait, non. Moi, le jeu qui m'intéresse, c'est celui-ci, c'est d'aller très très vite, et tant pis. » Et ben, il y a un court-métrage que je voulais voir depuis des années et que j'ai enfin trouvé sur YouTube, qui s'appelle The Grannies, et qui, en fait, parle d'une bande de gens qui jouent à Red Dead Online. Donc un jeu dans lequel on te promet de, en fait tu vas voir, on va te créer le meilleur bac à sable de jeu du western de ta vie. Et en fait ces personnages, elles se sont dit, c'est marrant parce que le but du western c'est un peu genre l'exploration vers l'ouest, vraiment repousser les limites, aller vers l'inconnu. Donc c'est ce qui est proposé dans le jeu et c'est ce que du coup le terrain de jeu proposé, c'est ce qu'il est aussi. Et en fait ces gens-là ont décidé de dire ok, on va vraiment faire ça et du coup... ils sont partis, du coup, faire de l'out of bounds, donc sortir en dehors des limites prévues de cet espace de jeu, et d'aller vraiment, pour le coup, explorer les terres inexplorées, peut-être inexplorables, on ne sait pas trop. Et je trouve ça génial, c'est pas du speedrun, mais je trouve que c'est quelque chose de fondamentalement pareil, quoi, de se dire, vous vouliez qu'on joue à ça, et vous nous avez fabriqué ce terrain de jeu, mais en fait, nous, ce qui nous amuse, c'est notre façon de jouer dans ce terrain que vous avez prévu. Et c'est hyper poétique en plus. Donc ouais, The Grannies, je vous invite à le voir. Très très beau.
Bah écoute, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on n'insiste pas assez, mais en fait c'est toute la dimension intéressante aussi du speedrun et de d'autres pratiques de jeu. C'est que comme tu le dis très justement, la personne en fait va créer son propre jeu à partir de là. Et du coup le jeu devient presque en fait un peu comme les Sims finalement. Une sorte de journal avec des pages blanches et en fait on doit écrire son propre truc et moi je trouve ça assez extraordinaire. J'adore vraiment quand les joueurs s'approprient et reprennent les jeux à leur manière. Je trouve que la créativité peut être vraiment incroyable.
Merci beaucoup Anna pour ta chronique. La fin de l'émission approche doucement, mais ce n'est pas complètement la fin. Il reste le traditionnel jeu et c'est toi Tizona qui t'en charge ce mois-ci.
Donc pour le thème de ce blind test, j'ai choisi des thèmes de personnages et pas n'importe lesquels. Donc le thème, ça va être ces personnages féminins qui ont la chance d'avoir leur propre thème musical. C'est un petit peu inspiré par le mois dans lequel on est, qui est censé célébrer les droits des femmes avec la journée qui lui est dédiée, quelle qu'en soit son utilité. Alors du coup, je vais vous lancer le premier morceau. Alors, a priori, si... vous n'avez pas encore trouvé, c'est que je suppose que vous n'avez pas fait ce contenu du jeu, car a priori il devrait être sinon assez traumatisant. C'est le thème du une partie d'un combat contre un boss qui est un peu le combat signature de son jeu.
Moi, je trouve qu'il y a une vibe très From Software, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça.
Tu chauffes.
J'ai pas du tout.
Alors, il s'agissait d'Elden Ring, et plus particulièrement du thème de Malenia, donc le titre Malenia Blade of Miquella. C'est une musique donc, qui est très, peut-être trop familière pour les gens qui ont fait le jeu et qui ont passé des fois un petit peu trop de temps sur ce combat. Il accompagne la phase 1 du combat, qui est souvent considéré comme l'un des plus difficiles des jeux From Software. La musique a été composée par Yuka Kitamura pour Elden Ring, qui est sorti donc en 2022. On passe au deuxième morceau. Alors là, on est un petit peu avant Elden Ring. On est sur un jeu dont la suite est très attendue, notamment par moi-même, de type platformer. Un petit peu l'arlésienne, où à chaque conférence de jeux vidéo, il y a toujours des gens qui se posent la question de s'il sera présent ou pas.
C'est un combat de Hollow Knight ?
Effectivement. C'est un combat de Hollow Knight. Est-ce que tu saurais à quel personnage
il est ?
Non.
C'est pas les Raymond, non, ok.
Bah, c'est tout simplement le thème du personnage qui sera protagoniste de la suite. Je ne sais pas si tu as son nom.
Ouais, c'est Hornet, c'est ça ?
C'est ça, absolument. Donc c'est, en particulier cette musique-là, c'est Daughter of Alonest, qui est une petite variation du thème de combat d'Hornet. Il s'agit d'une version qui est réorchestrée que l'on peut entendre dans le tortueux panthéon du DLC Gone Home Hollow Knight, le DLC qui est sorti en 2018, soit un an après le jeu original. Donc le thème ainsi que les réorchestrations propres au DLC ont été composées par Christopher Larkin. Et voilà. J'attends une nouvelle réorchestration dans un prochain jeu. On passe au morceau suivant.
Silent Hill 2, mais oui.
Bien joué.
Désolé, celle-ci, je l'ai écoutée en boucle et en boucle. Ouais.
Est-ce que tu as éventuellement le nom du personnage dont c'est le thème ?
Alors, non, parce que j'y ai pas joué.
D'accord.
Mais j'ai écouté en boucle cette BO qui est géniale.
Oui, bah c'est effectivement une des musiques les plus connues, peut-être j'avais hésité avec le thème de Lisa de Silent Hill 1 qui est aussi assez célèbre. Donc c'est le thème de Laura qui est le personnage enfant qu'on peut voir dans le jeu. Donc cette fois-ci on n'est plus sur du combat. C'est le thème de Laura, donc un personnage énigmatique de Silent Hill 2. La musique a été composée par Akira Yamaoka, dont on reconnaît particulièrement le style rock aux mélodies mélancoliques. Donc pour le coup, il s'agit de la version qui accompagnait le jeu original sorti en 2001, et non pas la version réorchestrée pour le remake, donc le remake récemment sorti, qui a bénéficié d'un rafraîchissement de son OST. On peut passer à la suite. Cette fois-ci, on est reparti sur un thème de combat d'un jeu qui désormais a un peu plus de 10 ans et ça fait un peu mal de le constater. Alors, le jeu est souvent vu comme étant le représentant officiel des jeux indépendants. Alors, c'est un jeu, on parlait tout à l'heure de Care, c'est un jeu qui joue beaucoup sur cet aspect-là.
Ouais, alors du coup, moi c'est vraiment l'indice, c'est le représentant des jeux indés, du coup je dis que c'est Undertale.
Absolument. Alors le personnage est peut-être forcément évident, est-ce que tu as une idée ?
Alors non, parce que je l'ai commencé il y a pas très longtemps et le jeu est hyper dur. Du coup.
Peut-être. Comment elle s'appelle, Toriel, la maman, enfin, la non. figure maternelle, non?
Un peu plus énervée.
Ah oui, comment elle s'appelle? C'est la boss. J'ai envie de dire poisson, mais j'ai oublié son nom.
Oui, c'est le thème de Undine. Donc ce thème-là, c'est le thème de son deuxième combat, si je puis dire. Donc la musique s'appelle Battle Against a True Hero, du combat de boss Undine Undying. Donc en fait, c'est une musique qu'on entend quand on choisit un chemin un peu plus moralement questionnable dans le jeu, parce que c'est la musique du combat quand on choisit la route Genocide. Donc quand on fait des actions, ça se passe pas très bien, somme toute. Donc la musique a été composée par le créateur de jeu lui-même, Toby Fox. Et comme je l'ai dit, le jeu est sorti fin 2015, alors que j'ai l'impression que c'était il y a peu de temps. Eh bien, nous allons passer au dernier morceau. Là encore, on n'est pas sur du thème de combat. On est sur un jeu japonais qui est issu d'une série qui à la base était un petit peu niche, qui maintenant est devenue un peu plus populaire. C'est peut-être la piste la plus compliquée. Donc c'est un jeu qui a été développé par Square Enix. Le jeu est sorti en 2010. L'époque avait fait un petit peu un four, car il était un petit peu daté, il faut le dire. S'inscrit dans... c'est le petit frère, enfin le grand frère en l'occurrence, de Nier Automata. Je vous donne en fait quasiment la réponse, si jamais...
Bah du coup, Nier tout court.
Voilà, absolument. C'est le thème du personnage de Kaine, en particulier Kaine Escape, puisqu'il existe une deuxième version du thème qui est un peu plus mélancolique, mais le thème mettait plus de temps à démarrer, donc j'ai choisi celui-là. Donc c'est le thème d'un des personnages de Nier Replicant, donc au Japon, Gestalt en Occident. Thème d'un personnage au verbe assez vif de ce jeu qui est sorti en 2010. La piste a été composée par Keiichi Okabe et chantée par Amy Evans dans une langue inventée par ses soins pour le jeu, le Chaos Language. C'est la fin du blind test. Merci de votre participation. Je m'excuse si ces thèmes étaient un petit peu péchus. Et puis je repasse la main à Mehdi.
Merci beaucoup Tizona pour le jeu. Et oui, donc c'est la fin de l'émission. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions Gomeisa, notre invité du jour. Merci à toi pour cet entretien et pour ta présence. Merci beaucoup à Léa, à Tizona et à Anna. Un grand merci aussi à Lazare pour la réalisation de l'émission et merci également à Vincent pour la sélection musicale. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et évidemment de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi, ça nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Et nous nous quittons donc ce mois-ci sur Sogno di Volare, composé par Christopher Tin pour l'OST de Civilization 6.